On est aujourd'hui le lundi Kaf Zayin Marcheshvan, on est le 9 novembre. Et le cours est aujourd'hui pour la famille Atuetu, David Pinchas et Chava, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Lucy Rachel Bat Zina, Eliaou Ben Kamra, pour la Rifua Shlema de Yitzhak Ben Alua, Yaakov Ben Zina et Simcha Bat Kamra, ainsi que pour la Rifua Shlema de Moshe Yehoshua Ben Huguet, et pour la réussite totale de Yitzhak Ben Zina, Bat Simcha et de Mahlouf Ben Yaakov. Alors on reprend notre cours de Talmud, on est à la page Yutret et on commence directement la Gemara. On avait vu que le Kohen Gadol, tout au début de la Mishnah, Dan Vedani Noto, le Kohen Gadol peut juger et on peut le juger. Il n'est pas donc, comme on avait vu à la différence des rois d'Israël, certains rois du moins, il n'est pas intouchable. Et la Gemara demande, donc on est tout en bas, Gemara Kohen Gadol Dan Pshita, c'est évident. Pourquoi c'est évident qu'il peut juger? Et pourquoi il ne pourrait pas juger? C'est sous prétexte que c'est le représentant, un représentant de Dieu, excusez-moi pour le gros mot, et il ne pourrait pas juger? Bien sûr qu'il peut juger. La Gemara dit Danin Oto Itzrichale. Non. En vérité, le Chidouche ici, c'est pas qu'il peut juger, mais c'est qu'on peut le juger. La Gemara dit « Anami Pshita », ça aussi c'est évident. Pourquoi ?« Ilo daininan le iyu echidayan » Si on ne peut pas le juger, comment peut-il juger? À partir du moment où on a vu qu'un Kohen Gadol peut juger, automatiquement on peut le juger, parce qu'on a un principe que ne peut juger les autres que celui qui peut être jugé. Donc, si lui peut être, si lui ne peut pas être jugé, comment aurait-il droit de juger? Va'artiv, comme le verset nous l'enseigne, it kosheshu ve koshu. Faisez-vous beau avant de faire beau. Ça veut dire que améliorez-vous vous avant de demander aux autres de s'améliorer. C'est-à-dire, Amar Resh Lakish, comment Resh Lakish comprend ce verset? Kachet atzmecha, fais attention à ton comportement. Vers Harkar, cachet acherim, mais tu pourras être exigeant avec les autres. Et donc, c'est un principe fondamental, ne peut juger les autres que celui qui peut être jugé. C'est la raison pour laquelle on avait vu que puisque le roi, lui, on ne le juge pas, on lui enlève aussi la possibilité de juger les autres. Et là, donc on continue pour l'instant, c'est très technique, et là, donc on ne comprend pas toute cette phrase. Au sujet du Kohen Gadol, semble tout à fait superflu. C'est évident qu'il peut juger, qu'on peut le juger. Et là, donc la Gemara répond, Aïdé de Kabaïle Bitne Meler. En vérité, cette phrase-là, au sujet du Kohen Gadol, n'a pas été enseignée pour lui, mais a été enseignée, on pourrait dire, dans la foulée de ce qu'on a enseigné au sujet du roi. Aïdé de Kabaïle Bitne Meler, puisqu'on nous parle aussi du roi. Donc on parle de tous les personnages importants, même si c'est évident pour certains. Et le roi, on avait vu que quoi? Que l'Odan velodaninoto. Et donc comme on a vu, il y a un ridouche sur le roi, qu'on ne peut pas le juger, mais il ne peut pas non plus juger. Et ça, il fallait l'enseigner, parce qu'on n'aurait jamais pu deviner ce statut introuvable dans l'histoire humaine, qu'un roi ne peut pas être jugé, mais ne peut pas non plus juger, puisqu'on a vu que dans l'histoire humaine, où il est, où on ne le juge pas, mais il juge tout le monde, où on le juge et il juge. Mais un statut où on ne peut pas le juger et il ne peut pas juger, c'est ce qui n'existe pas dans la Torah, dans l'histoire, puisque depuis quand un roi va s'abstenir de juger les autres, par définition. Donc c'est un statut très très spécial, comme on avait déjà expliqué, qui est unique dans l'histoire du peuple juif et dans l'histoire du monde. Et c'est la raison pour laquelle donc ce texte sur le juge sur le roi devait être dit, et dans la foulée, puisqu'on parle déjà du roi, on parle des autres aussi, le Kohen Gadol, bien que en ce qui concerne, c'est évident. Je continue, donc, Tananami, c'est pour cette raison qu'on a aussi enseigné le Kohen Gadol, Dan Vedanin, qui peut juger, qu'on peut le juger, et qu'il peut juger aussi. Point. Alors, c'est très, très, très... Alors là, c'est vraiment un truc très lourd parce que c'est complètement, complètement codé, complètement caché. Évidemment, si on s'en tient à la lecture superficielle, eh ben, on aura lu trois lignes et on aura bougé les lèvres 10 fois, mais finalement, on aura perdu son temps. Puisque qu'est-ce que ce texte veut nous apprendre? Donc, je répète l'aspect technique. On a une question sur le Kohen Gadol. Pourquoi nous enseigne-t-on qu'un Kohen Gadol est complètement inclus dans la loi et il peut juger et on peut le juger? On a cherché toutes les possibilités, on ne l'a pas trouvé. Alors on dit, bon, on ne l'a pas enseigné pour lui-même, on l'a enseigné à cause du roi. Comme la Mishnah nous donne le statut des gens importants, les gens importants, c'est le roi et le Kohen Gadol. Puisque pour le roi, c'était très important de nous apprendre son statut, car ça, on n'aurait pas pu l'apprendre tout seul, que le roi ne peut ni juger, ni être jugé. Alors dans la foulée, on nous a parlé du Kohen Gadol, qui lui, bien que c'est évident, il peut juger et être jugé. Voilà ce que l'Agmara dit techniquement. Est-ce qu'à votre avis, il y a quelque chose de plus sérieux derrière tout ça? Parce que ce n'est pas sérieux du tout.
Moi, je crois qu'après, c'est chat. Elle ne concerne pas les êtres humains. Parce que les êtres humains, finalement, ça n'existait pas que toi tu peux me juger, moi je ne peux pas te juger. Ça, c'est la vie naturelle. Mais il parle au maître du monde. Moi, je crois que.
Mais non, on est dans une Mishnah, on n'est pas dans le Zohar. Non, ça, je n'accepterai pas. On est dans une Mishnah. Pourquoi la Gemara, elle parle de choses concrètes sur Terre. Même si on peut arriver à des explications très profondes. Mais on ne peut pas, on n'a jamais vu et on ne fera jamais sortir un texte du Talmud de son contexte littéral aussi. S'il y a bien des enseignements sur lesquels il dit « En mikrayot semideh pshuto », c'est bien sur le Talmud, c'est ça toute la force du Talmud, c'est que bien qu'étant extrêmement profond, il parle malgré tout de choses très terrestres. Donc c'est clair que le texte nous apprend aussi en ce qui concerne le Kohen Gadol et le roi. Mais il faut chercher dans le Kohen Gadol et le roi. Pourquoi il fallait nous parler du Kohen Gadol et du roi? Mais parce que mes amis...
Le Kohen Gadol représente le céleste, et le roi représente le terrestre.
Et on arrive finalement... je veux que vous le trouviez vous-même, parce que c'est trop gros pour ne pas le voir. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Le Kohen Gadol juge, et on le juge. Le roi, d'accord, ne juge pas, et on ne le juge pas. Mais vous ne voyez pas, c'est gros comme une montagne. C'est de la folie pure ce que dit la Mishnah. Surtout, après ce que Nathan a dit, que le Kohen représente le céleste et le roi représente le terrestre. Mais ça devrait être tout le contraire, bien évidemment. On arrive à une absurdité absolue. C'est exactement le contraire. Si déjà il y en a un qui n'est pas concerné par la loi, parce que c'est un représentant de Dieu, et donc un représentant de Dieu, peut-être qu'il a un statut spécial, il n'est pas terrestre, il est céleste. Si déjà on fait des statuts spéciaux, on se serait attendu à ce que ce soit le Kohen et pas le roi. Et voilà qu'on arrive à une absurdité totale, c'est que le roi qui est terrestre, il n'est pas dans le système juridique, et le Kohen Gadol qui est céleste, il est entièrement dans le système juridique. Donc ça veut dire quoi? C'est trop gros pour ne pas. C'est ça ce qu'on veut nous faire comprendre. C'est que justement, déjà, première explication au niveau du pshat, en ce qui concerne le Kohen, justement, on vient d'apprendre qu'il est complètement impliqué dans le système juridique. Pourquoi? Parce que pour nous, le représentant de Dieu, ce n'est pas le représentant du céleste, même si on le dit. Parce qu'en vérité, dans la mesure où il sert dans le temple, c'est tout le contraire du céleste, puisque c'est au contraire, dira batartonim, nitava, kadoshbun, yotlo dira batartonim. Le temple et la présence d'Hachem dans le monde prouvent bien qu'en vérité, la connexion à Dieu se fait dans ce monde et à travers ce monde et pas au-dessus de ce monde. C'est la raison pour laquelle justement la Torah, surtout depuis la construction du temple, nous interdit formellement de pouvoir apporter des offrandes en dehors du temple, alors que la tentation se résume, enfin Dieu il est partout. Est-ce que Dieu il s'intéresse à un endroit plus qu'à un autre endroit? Est-ce que pour lui telle terre est différente d'une autre terre? Est-ce que tel endroit est différent d'un autre endroit? Dieu il est omniprésent, il est spirituel, il est hors temps et hors espace. C'est justement, on vient de dire que non, que justement que tout le projet d'Israël, c'est de faire rentrer le divin dans l'espace et dans le temps, dans un endroit précis, avec un temps précis. Et donc automatiquement, c'est la raison pour laquelle celui qui le représente, il est complètement dans le système juridique, pour bien nous montrer que justement que le Kohen Gadol n'est pas un représentant déconnecté de Dieu, mais un représentant complètement connecté de Dieu. Le problème, il est maintenant sur le roi dans ce cas-là. Alors pourquoi le roi en arrive au contraire, que lui, il est justement pas hors la loi, mais il est hors système juridique, je préfère dire. Parce que justement, on parle de quel roi? On parle d'un roi qui n'est pas un roi de Yehuda, parce que les rois de Yehuda, donc les vrais rois d'Israël, on a vu qu'eux, ils sont complètement dans le système aussi. puisqu'ils jugent et ils sont jugés. Mais là, on parle d'un homme, d'un représentant de la loi, d'un représentant d'un, qui n'est pas qui des autres tribus. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est que quand quelqu'un joue un rôle qui n'est pas véritablement le sien, eh bien, d'une certaine manière, ça le dénature. Ça le prive de sa possibilité de faire partie intégrante de ce peuple. Comment ? Ça, oui, parce que, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tous les rois d'Israël ont été des crapules. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Tous les rois d'Israël, 400 ans de règne d'Israël, c'est tous des crapules, des grands, petits, moyens, etc. Pourquoi ? Parce que, et le premier de tous, c'était Jéroboam, celui dont on a introduit l'histoire. Pourquoi ? Parce que ce peuple-là ne peut être dirigé que par deux types de dirigeants. Hachem et celui, et ceux que lui-même a choisi, la famille de David. Maintenant, vous me direz, de la famille de David aussi a eu des crapules. C'est vrai. Mais c'est en conséquence de la chute des rois d'Israël, comme on le verra. À partir du moment où il y a eu le schisme et que la majorité des tribus ont commencé à aller vers l'idolâtrie, automatiquement, ça a eu une influence très très néfaste sur le royaume de Judée aussi, dans la mesure où la nature de l'homme, c'est malheureusement toujours suivre la majorité. Et n'oublions pas qu'il y avait malgré tout des liens familiaux, c'est comme la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y avait des liens familiaux, il y avait des oncles, des tantes, etc. C'était la même famille, même si c'était séparé politiquement. Et aussi le schisme a affaibli énormément, le manque d'unité a affaibli énormément. Et comme nous on sert un Dieu un, s'il n'y a pas d'unité dans le peuple, il ne peut pas y avoir d'unité dans Dieu, et donc ça devient plusieurs dieux. Ça on le verra en son temps. Mais quoi qu'il en soit, s'il n'y avait pas eu le schisme, les rois de Yehuda n'auraient jamais fauté. C'est la conséquence du schisme. Donc, le roi, comme il s'est dénaturé, automatiquement, les rois d'Israël, on les sanctionne en montrant que finalement, ils ne font plus partie de la loi d'Israël. Voilà. Ils ne font plus partie de la loi d'Israël.
C'est quand même un paradoxe.
Comment ?
C'est quand même un paradoxe, parce que de ce fait-là, ils ne peuvent plus être jugés.
Comment ?
De ce fait, ils ne peuvent plus être jugés. C'est un avantage pour eux.
C'est un avantage. C'est un avantage, mais disons que si on regarde bien l'histoire des rois d'Israël, on s'aperçoit qu'ils avaient un juge beaucoup plus terrible que les juges humains, c'était le bon Dieu lui-même. Ils sont tous fait dégommer les uns après les autres. Ils régnaient un mois, deux mois, un an, deux ans, ils se faisaient assassiner. Ça veut dire que le bon Dieu s'est occupé d'eux. Et il n'y en a pas un qui a régné plus que deux, trois, quatre, cinq ans. Jéroboam, je crois que c'est lui qui a régné le plus longtemps, parce que les gens ont eu du mal à aller à quel de se rendre compte de ce qui leur arrivait. Donc il a profité un petit peu de la surprise totale avant d'être dégommé lui-même. Mais les autres, c'était assassinat politique sur assassinat politique. Donc de toute façon, Hachem se débarrassait d'eux les uns après les autres comme
alors,
ça.
Alors pourquoi la Gemara, elle s'intéresse de toute façon, la question des rois en Israël, c'était combien 80 années finalement.
Non, mais c'est dirigeant. On explique que Meller, c'est Molir. C'est dirigeant, c'est la même traduction. Effectivement, là quand on parle des rois d'Israël, c'est le roi d'Israël le réel, mais l'idée reste la vraie. Cette question elle est connue, pourquoi nous parler des rois d'Israël à l'époque du Talmud, il n'y en avait plus déjà depuis des millénaires.
Exactement.
Mais parce que c'est tout dirigeant qui prend ce statut. D'une certaine manière, si j'ose presque dire, c'est comme si la Torah nous disait, c'est comme si nos maîtres nous faisaient une allusion à un phénomène qu'on connaît que trop, avec une petite exception en Israël, kolakavod pour notre pays, c'est que les dirigeants, ils sont hors la loi. C'est très rare de faire tomber un dirigeant, ils sont extrêmement malins. Soit ils sont dictateurs, soit vous avez vu qu'on a condamné, bon, je ne peux citer pas de nom, mais en France, alors qu'on savait qu'il y avait des histoires, Ada Chabaï, etc. Chez nous, c'est beaucoup plus facile de faire tomber un dirigeant. Le maire est sur le point d'être jugé. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on sait très bien que la politique s'autoprotège. À mon avis, le Talmud ne fait que mettre en évidence le vice qu'il y a dans un système de dirigeants qui n'est pas vraiment élu par Hachem. Ça veut dire que finalement, ils créent des systèmes où ils sont intouchables. Mais d'un autre côté, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que ça ressemble énormément à un système démocratique. Dans le pouvoir démocratique, c'est pas les dirigeants qui jugent. Il y a une insistance. Si on voit, s'il y a une insistance parallèle, maintenant qu'elle est trafiquée, peu importe. Mais il y a une insistance parallèle. C'est tout le combat du bagat ici en Israël pour ne pas être politisé, etc. Et donc c'est intéressant parce que finalement, c'est très 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 difficile si on prend le modèle occidental. de faire tomber un dirigeant occidental, c'est très difficile. Et d'un autre côté, il ne juge pas non plus. Il ne siège pas dans un tribunal. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que le Talmud dit. Chez nous, c'est aussi pareil. Parce que bon, sur 67 ans d'existence, on en a fait tomber un et encore. On ne va pas savoir s'il va être jugé finalement, condamné. Et Olmert.
Non, mais on avait président, ça
non, je parle de vrai dirigeant. Non, je parle de vrai. Ici, on parle d'un mêler, celui qui a vraiment le pouvoir. Mais je suis d'accord avec vous, Nathan. Chez nous, c'est mieux que partout ailleurs. On est le seul pays qui arrivons à faire tomber les grosses têtes d'un pays. Et c'est tout à notre honneur, c'est vrai, Béhémeth. Mais la grosse tête, celui qu'on appelle le mêler, qui veut dire en français le dirigeant, à Michel Molir, c'est très rare. Même chez nous, on n'en est pas encore sûr qu'il va finalement arriver à tomber. Alors qu'en France ou ailleurs, pour un milliard de fois plus grave que ce que Olmert a fait, on parle de 150 000 dollars pour Olmert, d'autres, j'ai pas envie de citer les noms, c'était des millions d'euros, et ils n'ont jamais été inquiétés. Et donc, on les connaît tous. Et donc, on va mettre en prison chez nous quelqu'un pour 150 000 dollars, alors que pour eux, pour 10 millions d'euros ou 100 millions d'euros, ils meurent dans leur lit. Donc ça veut dire, ça c'est tout l'honneur du peuple juif, qui a une justice qui malgré tout ne fait... Mais malgré tout, le Talmud dit quelque chose qui est vrai. C'est très 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 difficile d'attaquer un dirigeant politique qui n'est pas un roi, qui n'est pas un descendant du roi de David. Et c'est pour ça d'ailleurs que la malroute a été dégommée chez nous, parce que Hachem en avait marre de toute cette fumisterie. Et le prochain, ça sera Mashiach. Le prochain sera Mashiach.
Rav, alors pourquoi c'est une question peut-être chez le coffer. Alors pourquoi les maîtres du monde voulaient, par définition, de faire les mondes célestes et les mondes terrestres, et toujours il y a des débats entre l'Oba Shamaimi, Nitzchouni Banaï.
Mais parce que c'est tout le projet de l'unité. Pourquoi le maître du monde a fait l'homme et la femme si différents? Pourquoi est-il absolument impossible, d'après la nature des choses, qu'un homme et une femme puissent vivre ensemble toute une vie en se respectant et en étant fidèles l'un à l'autre? C'est impossible. Sauf, si disent nos maîtres, c'est pas de moi. Ish veisha zochim shchina beinem. Est-ce que vous avez déjà pensé un petit peu ce que ça veut dire? Alors évidemment, un rabbin du dimanche, il va dire, si vous êtes méritant, Dieu sera parmi vous. Évidemment, parce qu'il ne comprend pas plus loin que le bout de son nez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si ce n'est pas la shchina beinem, il n'y a aucune possibilité pour qu'un couple puisse rester naturellement ensemble. Pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel qu'un homme reste enfermé toute sa vie avec la même femme. Ce n'est pas naturel qu'une femme reste enfermée toute sa vie avec le même homme. C'est tout à fait naturel qu'on ait des besoins, des envies, qu'on a envie de changer. Comme on change de chemise, on change de pantalon, on change de chaussures. C'est la nature de l'homme, le renouveau. C'est pour ça que nos maîtres disent, si ce n'est pas la shrina beinehem, c'est impossible. Alors la question est la même. Je vais comprendre la réponse. Pourquoi Hachem a créé deux êtres si différents? Puisque c'est tellement difficile, la preuve c'est que la majorité des gens qui s'unissent dans ce monde divorcent. C'est pas le contraire qui est vrai. Donc, ou la majorité des gens qui s'unissent se trompent. Donc c'est une toute petite minorité qui reste avec la même pendant 50 ans et qui ne la trompe pas et vice versa. C'est très très rare. Donc pourquoi le maître du monde a créé des natures si différentes? Parce que c'est tout le projet humain, l'unité, de réunir les contraires. Donc il a créé un monde dans lequel il y a des extrêmes différences. Et pour arriver à l'unité, on a besoin de lui. Et c'est la garantie qu'on ne peut pas se passer de lui. En fait, il est très malin, le maître du monde. Il a créé un monde qui est tel que sans lui, on ne peut pas s'en sortir. Donc, séparer entre le céleste et le terrestre, entre la femme et l'homme, entre le corps et l'âme, entre les nations et Israël, il a créé un monde qui, sans lui, ne peut pas avoir l'unité. C'est impossible.
Mais comme vous savez, on est tous là ici, on est plusieurs années mariés quand même. Quand il y a les divorces, c'est au départ que chacun essaie de trouver ses frontières. Tandis que moi, je suis marié 45 ans avec ma chère épouse, je ne vais pas les divorcer pour les mêmes trucs. Ce n'est pas qu'il a créé des êtres, et finalement, contrairement à quelqu'un qui a trouvé Ezer Kenegdo. Des fois, il y a des Kenegdo, des fois, il y a Ezer Kenegdo. C'est pour okay, accomplir.
On ne regarde pas votre cas particulier, on regarde la majorité dans le monde.
Pas des majorités.
Dans la majorité.
Les D3, 4,
la majorité écrasante dans le monde, c'est ou le divorce ou l'infidélité. C'est la norme standard depuis que le monde est monde. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tellement légalisé qu'on a même honte de dire on ne trompe pas sa femme. Sinon, il y a des endroits où tu ne peux même pas rentrer. Tu es pris pour un fou. Donc, ça veut dire que derrière toute cette vitrine du soi-disant couple et du soi-disant mariage, on sait très bien ce qui s'est passé depuis tout le temps. Et même si c'est un couple qui est ensemble et qui ne se trompe pas, mais ils ne sont plus ensemble, ils sont côte à côte. C'est le cas de 99% des couples qui, après 20 ans de mariage, c'est tout juste qu'ils disent bonjour. Ils vivent l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire, le vrai mariage qui est l'unité des contraires, c'est très, très rare. Pourquoi ? Parce que c'est possible que seulement si Hachem est au milieu. Donc, c'est pareil entre Israël et les nations. On n'arrivera jamais à la paix avec eux et eux la paix avec nous, sauf si Hachem s'y mêle. C'est pareil entre l'âme et le corps. On n'y arrivera jamais, sauf si Hachem s'y mêle. C'est-à-dire qu'il a créé un monde impossible sans lui. Oui.
Le projet initial de... Quand Israël est sorti de rentrer en Eretz Israël, il ne devait pas y avoir une royauté. C'est le peuple d'Israël qui a demandé à copier.
Non, c'est inversé. Non, c'est dans... C'est dans Parchat Kitetsé.
Je n'étais pas très content.
Non, parce que c'était parce que la manière dont ils ont demandé. Non, c'est un autre sujet. La manière dont ils ont demandé. Mais c'est Shalosh mitzvot nitzavu Israël beknisatan laaretz la mir aleem meler limchot et zaro shel amalek et dinot et amida. Shalosh mitzvot.
C'est bien. Alors disons ce meler-là.
Oui.
S'il doit être supervisé par une juridiction toraïque, par un système de la Torah. Pourquoi qu'il n'y aurait pas un seul personnage qui unifie tout ça ? C'est-à-dire que le Kohen Agadol, ou le représentant le plus bachir du monde toranique, soit aussi le Melech.
Mais pourquoi, non, mais justement, parce que sinon ça s'appelle de l'homosexualité spirituelle ou politique, justement. Pour qu'il y ait l'unité entre deux personnes, il faut qu'ils soient et restent différentes, un homme et une femme. Si je me marie avec un homme, c'est plus un couple, si je me marie tout seul. Justement, si le Kohen devient Meller ou si le maire de la Kohen, il y a eu les deux tentatives dans l'histoire biblique, c'est la catastrophe. Pourquoi ça s'appelle de l'homosexualité historique ? C'est-à-dire que je me marie avec moi-même. Au contraire, pour qu'il y ait unité, ils font un roi, ils font un Kohen et l'unité entre eux, justement. Un homme et une femme. C'est ça toute la tentation justement du monde occidental. Après des millénaires qui se sont rendus compte qu'on n'arrive pas, à vivre avec une femme, on va essayer de vivre avec un homme. Ça veut dire en vérité, on vit avec soi-même. Ça non plus, ça ne marchera pas. C'est évident qu'il y a déjà chez eux de l'infidélité ou des choses comme ça. C'est pas
pourtant, le Melech HaMashiach, ça va être un Melech.
Mais il ne sera pas Kohen. Il y aura un Kohen Gadol à l'époque du Mashiach. Il ne sera même pas Navi. Il y aura Eliyahu Hanavi, au niveau du Pshat, même si c'est une métaphore, mais il y aura un Navi. Il y aura le fameux Mishkan. C'est quoi Mishkan? Meler, Shin, Shofet, Kaf, Kohen, Gadol, Nun, Navi. Il y aura le fameux Mishkan. La structure fondamentale de ces hommes qui incarnent chacun une lettre du nom divin. Parce que le fameux Mishkan, quatre lettres, c'est les quatre lettres du nom divin. Même Hachem lui-même n'a pas qu'une seule lettre, il en a quatre. Et c'est ça, c'est ça l'unité. Si on est tous pareils, alors il n'y a plus d'unité. Vous comprenez ? C'est pour ça que là où Hachem a été le plus dur et le plus intransigeant, c'est quand les Kohanim veulent prendre la royauté ou quand les rois veulent prendre la Kehuna. Dans l'histoire, ça a été des catastrophes. Comme on le sait, on est à quelques jours de Hanouka. Toute la famille des Hashmonaïm exterminée comme jamais dans l'histoire de notre peuple, une famille tellement illustre a été exterminée jusqu'au dernier. Hachem n'aura pas pardonné de ne pas avoir rendu le pouvoir à ceux qui étaient faits pour ça, à leur côté des Kohanim, alors qu'on leur doit jusqu'à aujourd'hui le souffle de notre bouche. Sans eux, on aurait disparu. Mais Hachem n'aura pas fait de cadeau. Pourquoi ? Parce que justement, c'est une homosexualité totale. L'homosexualité, ce n'est pas que physique, c'est un concept, l'homosexualité. C'est-à-dire que je m'unis à moi-même. C'est ça, l'homosexualité.
Mais eux, ils sont les alors, au début.
Alors, à la période de David Hameler, normalement, Il manque une seule chose parce qu'il était Melech. Il y avait Kohen Gadol, il y avait Sanhedrin.
Il y avait Navi, Nathan.
Navi. Il manquait les Mikdash.
Finalement. Non, mais il y a le Mishkan.
Les Mishkan construits. Voilà, à sa place à lui.
Parce que, d'accord, c'est le début. On continue.
Alors, s'il y aura les Mashiach, il y a Sanhedrin Gadol.
Baruch, ma fourrache, le Sanhedrin va être reconstitué à Tibériade. Et le Tibériade, il montera à Yerushalayim. Baruch, c'est mes fourrages dans la Gemara. Pourquoi? Parce que le dernier endroit où le Sanhédrin a été exilé, c'était à Tveriad, et c'est de là-bas qu'il reprendra. On continue. Veibaitema, autre réponse. Hakamashmalan. Alors maintenant, autre réponse, pourquoi on nous parle du Kohen Gadol dans cette Mishnah? Hakamashmalan, Kedetania. Il y a un enseignement, on vient nous apprendre selon l'enseignement qui dit la chose suivante. Kohen Gadol chez Arag. Est un effet bémézide. Si un Kohen Gadol a tué quelqu'un, bémézide, volontairement, il s'est disputé avec quelqu'un, et il a tué, il y a eu des Kohen Gadolim qui étaient des assassins, et donc il a tué quelqu'un. Si on le juge, Neherag. Si on le juge, il sera lui-même tué. Bon, quand il y a toutes les conditions, témoignages, mise en garde, etc., etc., comme on le sait, les conditions pour pouvoir tuer, condamner quelqu'un à mort chez nous sont tellement dures que le Talmud dit qu'un tribunal qui est condamné plus qu'une fois tous les 70 ans à mort est un tribunal sanguinaire. Donc le droit de mort existe, mais il est très théorique. Mais quoi qu'il en soit, si il a tué, on peut le tuer. Beshogeg, par contre, si un Kohen Gadol a tué par inadvertance, excès de vitesse, mais sans aucune volonté de tuer, Golé, il était lui-même exilé, comme c'est le cas, comme on le sait, dans le contexte thoraïque, oui, absolument.
Donc il dépendait de l'autre Kohen Gadol qui allait venir.
Alors, non, et si c'est lui Kohen Gadol, donc oui, non. Mais non, il n'en sort jamais. Parce que tu sors au moment de la mort du Kohen Gadol c'est qui ça. Était en fonction au moment, donc il ne sort jamais, lui. Golé, puisqu'il c'est lui-même.
Oui, mais voilà, c'est
mais non, mais oui, mais il ne l'exilé ne sort qu'à la mort du Kohen Gadol qui était en fonction au moment où il a tué Beshogeg. Donc c'est lui-même. Donc il sortira au moment de sa mort.
Alors pourquoi dit Bémézid par Otsea? C'est l'autre qui non l'autre.
Il faut lui trouver un remplaçant.
Alors, Golé, mais ça c'est autre chose, mais lui ne sort pas. Golé, Beshogeg, Golé, Verover al-Asé, Val-Lota-Asé. De même, on verra plus tard ce que ça veut dire dans la Gemara, mais lui aussi est concerné par les interdits assez et lota assez, faire et ne pas faire. On verra, c'est très mystérieux cette phrase ce que ça veut dire. Idiot, et il est considéré comme un simple citoyen. Dans tout, non, idiot veut pas dire typèche.
Non,
idiot veut dire un simple. Non. Dans le Talmud, idiot veut dire citoyen. Il est considéré comme un simple citoyen pour tout ce qui concerne les lois de la Torah. Ça veut dire que ça aussi c'est un chidouche absolument incroyable. C'est-à-dire que la force avec laquelle la Mishnah dit ça, et ça c'est unique chez nous, parce que le Saint-Père, il est intouchable. Vous imaginez quelqu'un qui va critiquer le Saint-Père, ou qui va critiquer dans son domaine, comment s'appelle-t-il, celui des hindous, les bouddhistes, là, bon, peu importe, etc., le Dalai Lama, etc., dans leur milieu à eux, c'est intouchable. Regardez, vous imaginez quelqu'un qui va critiquer Mahomet, vous imaginez, regardez ce que, cette Mishnah-là, il faudrait la traduire en 70 langues, l'amener dans le monde entier, et leur dire, mais regardez, honte à vous, regardez le peuple que vous détestez, regardez ce qu'il a dans ses lois. Que chez nous, le Kohen Gadol areu idiot le chol davar. Il est considéré comme un simple citoyen dans toutes ses actions.
Donc ça veut dire que... Plus
comment
que le début.
Quoi? Non, attends, mais on n'a pas fini. Attendez, on n'a pas fini. Je m'arrête pour l'instant, moi, c'est moi qui rebondis là-dessus, c'est pas fini. La Gemara va continuer. C'est vraiment sur cette phrase-là. Vous imaginez une religion au monde qui dit que le représentant ultime de Dieu dans sa religion est arésé, idiot, l'échol d'avoir, c'est un simple citoyen comme tout le monde. Ça veut dire qu'on lui fout deux claques s'il nous embête. Ça veut dire que pour nous, c'est un simple citoyen. Je vous avais dit, rappelez-vous, parce que j'attendais de voir ce texte-là, après j'ai réfléchi, que le Tosfot, on n'avait pas tout à fait terminé. On va continuer aujourd'hui, grâce à ce qu'on voit maintenant, sur la fameuse différence entre le Rav qui peut être Mochel sur son Kavod et le roi qui peut être Mochel sur son Kavod. J'attendais qu'on voie le Kohen Gadol pour revenir sur ce Tosfot, vous allez voir. Donc on nous dit, il est idiot l'échol d'varav. D'accord? La première fois dans l'histoire humaine que se lève un peuple qui considère que son représentant ultime de Dieu, d'accord, est en vérité un citoyen comme un autre. J'arrive pas à me dépasser le texte parce que ça me ronge en moi, je ne peux pas vous expliquer, même que je suis en direct. Et c'est pas possible. Jusqu'à quand la mauvaise foi du monde par rapport à notre peuple. Des textes comme ça, ça devrait tous les mettre à plat. Bon, on continue. Vareu ke idiot lechol dvarav. C'est un simple citoyen pour nous, le Kohen Gadol. Point. Ça, c'est la Braïta. Maintenant, on va continuer, on va voir. Bemezid ne'erag. Alors, on revient sur le fait que s'il a tué Bemezid, on le tue. Alors, pourquoi? Alors, la grande dit, pshita, c'est évident. À partir du moment où tu me dis c'est un citoyen comme un autre, ben évidemment que s'il a tué et que les conditions s'y prêtent, on le tue. La Gemara dit, effectivement, ce cas est évident, mais c'est le prochain qui n'est pas évident. Lequel? Celui où vous avez tous posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il sort ou il sort pas? Beshogeg golé. En vérité, comment on voulait nous enseigner le dîme de Shogeg, on a aussi enseigné le dîme de Mézid. Sur le dîme de Mézid, de tuerie volontaire, il n'y a pas de ridouche, il n'y a pas de nouveauté. C'est évident que s'il tue volontairement, on le tue. Mais le ridouche est, s'il tue non volontairement, et qu'il part en exil, ça c'est un ridouche. Pourquoi? Itzrichale. L'Akmara dit, Anami Pshita. Qu'est-ce qu'il y a? C'est aussi évident, pourquoi il ne partirait pas en exil? Alors lui, il lui dit, mais laisse-moi parler, attends, c'est pas fini. Itzari, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas évident. Salkadataramina, on aurait pu croire au ilurtif, comme le verset, comme il y a un verset qui dit Vayoshev ba admot a Kohen Agadol, votre question à tous, que l'exilé restera dans la ville de refuge jusqu'à ce que meure le Kohen Gadol qui était en service au moment où il a tué. Emma, donc j'aurais pu croire Kol de Itletakanta, celui qui a cette possibilité de s'en sortir, qui a ce tikkun Bechazara et de sortir de la ville, l'Iglé, celui-là en l'exil. Vous allez voir la puissance de la sagesse qu'il y a derrière. Delitle Takanta, mais lui, qui n'a pas de Takana, lui ne pourra jamais sortir, puisqu'il est lui-même le Kohen Gadol qui a tué. Il va sortir quand il va mourir, donc il ne sortira jamais.
On aurait pu penser que le fait qu'il ait tué,
oui,
et qu'il soit condamnable,
oui,
lui fasse perdre son statut de.
D'accord, donc il n'y a pas de Kohen Gadol. Donc on aurait toujours eu, donc il n'y a pas de Kohen Gadol au moment où il tue. Donc, comme il n'y a pas de Kohen Gadol au moment où il tue, il ne va donc jamais sortir de la ville.
Et les autres citoyens qui sont...
Des litres takanta vechazara, lui, laissez-moi vous expliquer d'abord techniquement de quoi on parle. Lui qui ne pourra jamais s'en sortir, l'oliglé, on aurait pu croire qu'on ne l'exile pas, kamash malan, que oui, on l'exile quand même. J'explique, doucement. Pourquoi, mes amis, il y a une loi pour un... notre citoyen que lui, bien que c'est un simple citoyen qui en vérité qui a un statut plus embêtant encore qu'un simple citoyen. Ça veut dire, mes amis, ce que la loi va nous faire comprendre, c'est qu'en vérité, on est plus sévère avec lui qu'avec un simple citoyen. Pourtant, c'est le pontife, c'est le Saint-Père. Vous imaginez ce peuple, mais ce peuple, j'explique. Pourquoi la Torah a prévu... au niveau du pshat, hein, on rentre pas dans, si on n'est pas obligé, on ne rentrera pas dans la philosophie de la chose. Pourquoi la Torah a-t-elle prévu que quelqu'un qui tue par inadvertance s'en va en exil dans les villes de refuge et il sort, et donc sur que sa sentence s'arrête, sa punition s'arrête, dès que le Kohen Gadol meurt, celui qui était en service au moment où il a tué? Pourquoi? La Gemara dit, parce que, non, la Gemara dit, pour quel lien avec le Kohen Gadol? Parce que la fonction du Kohen Gadol est de prier pour protéger le Ham Israël d'accidents de ce genre, de maladies, d'accidents, etc., etc. S'il y a eu un accident mortel, on considère que d'une certaine manière, le Kohen Gadol n'a pas vraiment fait son travail. Et donc, pour lui faire comprendre au Kohen Gadol sa responsabilité face au peuple... Vous allez voir, c'est fabuleux. Au moment où il meurt, on libère le tueur, comme pour dire, c'est que finalement, ton acte est lié à ce Kohen. Maintenant, Hachem l'a repris, donc toi sors aussi. Maintenant, ici, le Kohen Gadol, c'est lui-même qui tue. Donc automatiquement, il n'y a pas un Kohen autre que lui-même qu'on va responsabiliser. Il est lui-même responsable. Si déjà le Kohen qui n'a pas tué est en partie responsable de celui qui a tué accidentellement, À plus forte raison, si moi le Kohen Gadol je tue accidentellement, je suis responsable pour moi-même. Si je suis responsable pour les autres, je suis responsable pour moi-même. Donc je vais aller en galoute. Mais le problème, c'est qui va me sortir moi du galoute? Non,
mais
il faut la mort du Kohen Gadol.
Les collègues qui vont le tuer quand il va être dans le Gola.
Non, il ne le tue pas.
Si, ils vont le tuer le Kohen Gadol, tout le monde va être libéré.
Non, mais
qui?
Pas lui.
Mais
on
qui va tuer?
Non, mais où est-ce qu'ils vont l'envoyer dans une ville de
qui
de...
Le Kohen Gadol?
Oui.
Évidemment qu'on va l'envoyer.
Alors, il y a beaucoup de qui ont tué Béchogé.
Oui, que des gens de Béchogé.
Mais alors, ils vont tuer le Kohen Gadol et tout le monde va être libéré.
Ah ben non, on parle pas des autres.
Mais non, mais il y a une bêtise. On parle de gens qui ont tué Béchogé, que c'est pas des assassins. Quelqu'un qui fait un accident de la route et qui tue quelqu'un.
Mais René.
On l'emmènera dans l'endroit, il y a 48 villes. On l'emmène dans une ville où il n'y a pas. Il y a 48 villes, nous. De toute façon, depuis quand quelqu'un qui tue dans un accident de voiture, il va tuer quelqu'un de sang?
Non, mais pourquoi il choisit les morts au règne Mézid et pas au Tsehach? Je n'ai pas compris.
C'est marqué comme ça dans l'anglais. Au règne Mézid, quand on parle. Parce que comme on veut dire au règne Béchogel, on a dit au règne Mézid. Comme on voulait dire au règne Béchogel.
On fait la différence entre au Tsehach et au règne.
Dans le Talmud, c'est tout le temps comme ça. Non, c'est pas comme en ivrite. Oreg Bemézi s'appelle Rotsea. Il n'y a pas cette différence. C'est une différence en hébreu moderne. Le Stam Oreg, ça veut dire que c'est Bemézide. Et alors maintenant, regardez. Donc, on aurait pu croire que puisque lui, personne va pouvoir le sortir de là, donc automatiquement, on ne va pas l'emmener en galoute.
Oui, mais il n'aurait pas été protégé.
Comment?
Il n'aurait pas été protégé parce que le but, c'est la protection.
C'est très très juste ce que vous dites. Non, d'abord la réponse, le but n'est pas que de le protéger de la famille. Le but est en soi une punition et un tikkun. Barour, que le fait qu'il va quand même maintenant pendant peut-être 30 ans, imagine-toi si le Kohen Gadol a 25 ans, il risque de se retrouver, même de mourir avant le Kohen Gadol. Et si lui a 50 ans, le Kohen Gadol a 25 ans, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il retournera un jour dans sa famille et dans sa ville natale. Donc c'est quand même une punition en tant que telle, et il y a aussi le fait que c'est une protection. Maintenant, la question que vous demandez, effectivement, est très juste. S'il y avait eu cette loi que le Kohen Gadol qui a tué ne peut pas partir en ville de Galoute, et lui-même il est donc en danger par rapport au Goel Adam, mais la réponse est que non, parce que le Goel Adam, c'est un sujet en soi que j'ai pas trop envie de traiter, ne peut tuer que parce qu'il est autorisé par la Torah. La preuve, c'est qu'après la mort du Kohen Gadol, quand la personne sort, le Kohen Gadol n'a pas le droit de le Goel n'a pas le droit de le toucher. C'est ça la difficulté, c'est que c'est pas vendetta, c'est un pouvoir que lui donne la Torah, qu'elle lui donne et lui retire. Par exemple, si, imaginez-vous que tout d'un coup il est malade dans la ville de refuge et qu'il doit aller d'urgence aller à l'hôpital Hadassah se faire soigner à Jérusalem. Alors Goel Adon va l'attendre en chemin et le tirer dessus. Mais que non. Et s'il le fait, il sera un assassin lui-même. Donc c'est, Goel Gadol, c'est que le Goel Adam, c'est pas n'importe qui, n'importe quand. Donc si on n'avait pas envoyé le Kohen Gadol en exil, vadaï qu'on aurait interdit au Goel Adam de le toucher. Donc,
oui. Un accident s'est vite arrivé.
Si jamais celui qui a été dans une ville de refuge, il décide de sortir pendant sa troufa où il y a encore le Kohen Gadol, si le Kohen Gadol il vient pour les Juifs, il peut se défendre les Juifs.
Oui, et qui
c'est Nikra Riga, quelqu'un
qui se défend, je n'ai pas compris.
Moi,
qui, enfin,
celui qui est dans une.
Bien sûr qu'il peut se défendre, l'autre a un redef.
Et donc il a un
dîner de bah bon. Même que la Torah l'autorise, c'est ce que la Gemara dit sur Pinchas avec Zimri. Si Zimri s'était retourné, il avait le droit de le transpercer. Si Zimri avait fait du Krav Maga et qu'il savait tirer sans se retourner, il avait le droit de tuer Pinchas. C'était même une mitzvah de tuer Pinchas, parce qu'il a l'obligation de se protéger. C'est le paradoxe extraordinaire dans la loi d'Israël, c'est que tu peux toi être autorisé à tuer quelqu'un pour l'empêcher lui-même de faire le mal, comme ici que Zimri avec cette fille, mais d'un autre côté, lui, il a le droit, même le devoir de se défendre.
Mais je crois que
c'est pareil. Là,
quand tu dis comment idiote, ça veut dire comme chaque ben adam acher, ça on le laisse dans une ville de refuge, mais on l'enlève pas. Qu'il était malgré tout un Kohen Gadol.
Non, justement. Donc c'est vrai que lui ne sortira pas.
Mais lui, il va sortir comme tous les autres.
Mais il ne sortira pas, la Gemara dit. Il ne sortira pas.
Mais Vadak, il ne sortira pas. Mais enfin, allez, parce qu'il faut qu'il attaque lui-même pour sortir.
Donc, on peut maintenant, on peut dépasser un petit peu le texte et voir ce qui se cache derrière, parce que c'est dommage, un texte si beau de se torturer comme un pile-pouleur pour des bêtises. Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, il est comme un idiote, mais d'un autre côté, donc, encore une fois, il va dans la ville de refuge, bien qu'il n'a pas la possibilité de s'en sortir. Ok ? On aurait pu croire que, encore une fois, que c'est très important ça. Je veux comprendre le « on aurait pu croire ». Pourquoi on aurait pu croire ? Il va dans la ville de refuge, lui-même le Kohen Gadol, il y reste, Nekouda. Pourquoi on aurait pu croire ? Pourquoi on aurait pu croire que... Parce qu'il faut savoir qu'une avamina dans le Talmud, c'est aussi de la chorma. On aurait pu croire, c'est tout un monde. Même si finalement la conclusion n'est pas comme on aurait pu croire, il se cache toute une sagesse derrière le... Comme on dit, avamina va Talmud gam Torahi. C'est aussi une Torah. Et d'après la Kabbalah, bichla, la avamina, elle est des fois plus haute encore que la maskana. Le Ari HaKadosh révèle ça. Voilà. Et parce que des fois la question est plus importante que la réponse. Effectivement, pour le dire en français. Et donc au niveau, on aurait pu croire qu'il ne part pas en ville de refuge parce qu'il n'a pas de takana. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette question, on aurait pu croire, c'est ça qui est très important, que ça n'existe pas chez nous, dans le droit juif, n'existe pas une punition qui n'a pas une réparation possible. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Le but n'est pas de faire mal, le but n'est pas de punir, le but est de réparer. Le but est de réparer. Ça veut dire que le droit juif ne punit pas, le droit juif répare. Soit la personne lésée quand c'est possible, soit au moins la personne qui a fauté, par le biais, on pourrait dire de la sévérité, pour ne pas dire punition, il y a une réparation. Alors maintenant, quelle est la réparation de celui qui va, le tikkun? Pourquoi c'est important de dire qu'il va en ville de refuge? Et à la mort du Kohen Gadol, il va ressortir. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Le fait qu'il va ressortir, en soi, c'est un tikkun. Ça s'appelle takana, le fait qu'il va ressortir. Pourquoi c'est un tikkun?
Parce que si pour kol idiot acher, kol ish acher,
oui,
c'est une takana.
Mais pourquoi c'est un tikkun pour lui?
Parce qu'il est réinséré, il a réété éduqué par les Lévites.
Oh, bravo! Dites-moi, un homme qui sort de prison dans le monde occidental, qu'est-ce qui lui arrive?
Il recommence,
il y retourne. D'accord. Bon, 1 sur 1 million s'en sort. Mais surtout que là, on parle d'un emprisonnement. Ce n'est pas des barreaux, c'est une ville. Mais un emprisonnement qui peut durer 20 ans, 30 ans. S'il avait 20 ans et le Kohen Gadol avait 25 ans, il risque, si le Kohen Gadol meurt à 70 ans, il risque de ressortir vraiment. C'est à perpétuité qu'il va prendre. Donc, comme le Talmud dit, c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est une takana qui ressort. Pourquoi? Parce que ça montre la grandeur du système judiciaire dans la Torah, que chez nous la prison n'existe pas. On rééduque véritablement, on le met d'Afka dans une ville où il y a des Lévi'im, entre parenthèses des représentants de Dieu, des gens qui sont censés être un peu mieux que les autres. Et le but est justement de lui réapprendre à vivre, apprendre à vivre au sérieux, parce que quelqu'un qui tue, même par inadvertance, c'est forcément quelqu'un d'extrêmement léger et qui ne vivait pas véritablement avec profondeur, avec responsabilité, avec un sens dans la vie. Parce que quand même, tuer quelqu'un même par inadvertance, t'as fait un excès de vitesse, c'est que ça prouve que toute ta vie, elle est bidon. Donc, c'est pour ça que très souvent, les gens ne s'en remettent pas, d'ailleurs. Et quelqu'un qui a tué, Lo Aleinu, qui nous protège, un accident de voiture, il ne s'en remet pas jusqu'à la fin de sa vie, il porte des séquelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le met dans un endroit, pas dans le but de le punir, dans le but de faire son tikkun. Et quand la personne ressortait, et que tout le monde voyait qu'il ressort mieux que quand il est rentré, c'était un tikkun extraordinaire pour le monde. Regardez ce qui se cache derrière.
De
montrer que nous, on n'est pas là pour punir, on est là pour réparer. C'est la raison pour laquelle le système incarcéral n'existe pas dans le droit juif. Pourquoi? Parce que tu détruis une personne quand tu la mets derrière des barreaux. D'accord. Et c'est pour ça que chez nous, excusez-moi, quand on a des détails, il partait avec sa femme aussi. Hors de question de le séparer de sa femme, parce que quand tu mets un homme pendant 10 ans en prison sans femme, tu le tues. Donc chez nous, il partait avec sa femme, il partait avec ses enfants, plus encore. Si c'est un homme de Torah, on obligeait presque son maître à le suivre. C'est fou. Bien sûr, on n'obligeait pas, on ne donnait pas des coups de bâton, mais on essayait de tout faire, même quitte à aider à déplacer la yeshiva du maître. Écoutez, on va vous soutenir, mais etc. Mais c'est un élève à vous, est-ce que vous êtes prêt à partir? On proposait même au maître de suivre son élève. J'ai déjà vu une prison comme ça. Attention, hey, c'est des textes qui datent de 3500 ans, hein, juste un instant. Donc vous imaginez le niveau juridique d'Israël. Vous imaginez. Donc pourquoi on était intéressé à ce qu'il puisse ressortir? Pour faire la preuve de voilà ce que nous on fait à un homme qui a fauté. On ne le détruit pas, on le construit. Très bien. Un petit peu comme chez nous, quand un terroriste rentre chez nous, il a le droit de faire des études, etc. Il peut devenir psychologue, il peut devenir médecin, c'est ce qu'on fait, d'accord? Hein, bon, Hachem. Et donc, ben oui, le problème c'est que, ben oui, on l'applique à la lettre, nous, voilà, hein, le peuple plus taré de la terre. Comment?
On l'habille, il fait du sport.
Voilà, il fait du sport, etc. Au bout de quelques mois, il a le droit d'avoir la visite de sa femme ou de sa copine, etc. Ils ont une chambre pour. Bon, mais lui, il a massacré une petite fille ou un petit garçon, c'est pas grave. Mais lui, il pourra s'amuser une fois par mois avec sa copine. Donc, il reçoit des milliers de shekels de l'OLP, etc. Je n'ai pas terminé. Et donc, maintenant, le... Non, mais nous, c'est bien, on applique ce que la Torah nous dit. Nous, on réinsère les gens. On est comme ça, on prend qu'il ressort, il a la pêche, et puis il recommence. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, ce Cohen-là, il ne va pas ressortir. Donc, comme il ne va pas ressortir, on ne pourra jamais prouver à qui que ce soit que finalement, on l'a réparé. Alors, on aurait pu croire que quoi? Que puisque le but n'est pas de faire mal, mais de montrer... Comment un homme qui a fauté, on le répare? Lui, comment on ne peut pas montrer qu'on va le réparer? Donc, ce n'est pas la peine de lui faire tout ça.
Il n'y aurait pas de tikkun.
Et alors, non, mais alors, celui-là, pas en tous les cas. Et finalement, on conclut, on dit, non, mais c'est pas grave, on le met quand même, même qu'il ne ressortira pas. Pourquoi? Pourquoi? Alors, les Mefarchim se posent la question. C'est moi, je vais vous expliquer. Pourquoi, malgré tout? Puisque la question et la Havamina étaient colossales. Pourquoi on l'y met? Stam pour le punir. Comment? Alors le Inyan est, c'est que oui, mais comme malgré tout, il a sur lui le fait que sa fonction en tant, et vous allez voir la réponse, elle est, waouh, sa fonction était de prier, entre autres, pour qu'il n'y ait pas d'accident mortel dans le peuple juif. À combien plus forte raison pour que lui ne soit pas l'auteur de l'accident mortel? Si lui a été lui-même un tueur, par inadvertance, ça veut dire qu'il a complètement failli à sa mission. Quelqu'un qui faillit complètement à sa mission, eh ben, on cherche pas trop à le réparer. Allez, vas-y, vas-y et crève. On regarde, et vous comprenez, c'est tellement juif. Moi, j'exagère, je le dis à Ladinovitch, moi, mais vous avez compris ce que je veux dire. Justement, on regarde. Non, mais c'est le principe qu'on apprend de là, c'est que la pire des choses qu'un homme puisse faire sur terre, c'est de ne pas être à la hauteur de la mission qu'on lui a confiée. Et donc, ça, c'est vrai dans tous les domaines. C'est pas seulement, on se sert de lui comme exemple. Dans tous les, quelle est la plus grosse faute qu'un homme puisse faire? On te fait confiance, on te confie une mission, et tu fais tout le contraire. Alors ça, ça veut dire que finalement, on en revient toujours au même. Dans la hiérarchie auprès de la morale juive, la pire des fautes, c'est être, ne pas être à la hauteur de la responsabilité qu'on t'a confiée. Ça c'est le summum pour nous. Pourquoi? Parce que par définition, pour nous, la Torah, c'est la déclaration des devoirs de l'homme. Il y avait juste une question avant vous, j'avais promis, oui. C'est bon, j'ai répondu? Très bien, oui.
Tout le problème, c'est de relier la mission qu'on a, la fonction qu'on a, à son essence. Donc, on va chez les villes, dans une ville de refuge, qui vont nous révéler difficilement, c'est pour ça qu'on va avec son rave ou avec toute sa famille, etc. Chacun a une mission qui vont lui permettre à ce monsieur, à ce Cohen Gadol, de révéler son essence par sa mission. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le travail, et c'est ça, c'est à ce moment-là qu'il sera libéré, lorsqu'on aura fait le ribour, le lien entre la mission et son essence. Et pour cela, il a besoin d'abord de sa femme. Mais en plus, il a besoin du public, notamment des livres.
Le but, c'est pas encore une fois de le détruire, c'est de le réparer.
C'est de réparer.
Mais c'est pour un citoyen normal. Mais pour un Cohen Gadol, qui en plus du fait qu'il est citoyen, il avait aussi la fonction d'eux, et qu'il a totalement failli à sa fonction, à ce moment-là, c'est pour ça que généralement, qu'est-ce qui se passe? Quel est le signe qu'on a un bon dirigeant à sa tête? C'est que quand il s'aperçoit qu'il a fait une bêtise, il se retire. On en a eu un dans ce pays, c'était Begin. après la guerre du Liban, il a compris.
Rabin avant lui.
Mais c'est pas retiré, il a été tué.
C'est pas retiré.
Non.
Ah, dans la première fois.
Avait la question avec...
Ah, avec la
question. Ah, exactement.
Voilà, exactement. Donc pourquoi? Parce que ça, ça prouve que c'est un homme qui a le sens des responsabilités. Qu'est-ce que font tous les dirigeants aujourd'hui, à part un ou deux dans chaque pays, etc. C'est que non. Et la Torah, elle vient et elle dit attention, faillir à son devoir, c'est la pire des fautes. Donc effectivement, toi, tu vas rester là-bas, t'en sortiras jamais. On s'en fout. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas les gens comme toi. Quelqu'un qui faillit à sa mission, non. Ah, mais j'ai pas fait exprès, pourquoi moi? Pourquoi lui, il a fait un excès de vitesse et il va sortir et pas moi? Parce que lui, c'est un citoyen qui a fait un excès de vitesse. Toi, tu es un homme missionné qui a fait un excès de vitesse et qui a failli à sa mission. C'est deux choses en même temps. Et la première, on est prêt à pardonner, pas la deuxième faute. La deuxième faute, on ne pardonne pas. Comment? Comment? Oui, mais d'accord, mais même un simple citoyen, il aura le même problème par rapport à sa mission à lui. C'est le clan, on l'apprend pour un autre. Ça veut dire que si, par exemple, dans le cadre de ta mission, moi, je ne sais pas, tu es... donne un exemple. Tu es chômeur dans un endroit, d'accord? Tu es gardien dans un endroit, tu t'es endormi, un soldat qui s'endort à son poste, d'accord? Merci Hachem. Je me souviens, une Mishnah dans ma Maseret Tamid et Midot, elle revient deux fois cette Mishnah. Toute la nuit dans le Beit Hamikdash, il y avait des gardes qui étaient à leur poste et qui gardaient. D'accord? Vous allez devenir fous de ce que je vais vous dire. Dommage que ça soit enregistré parce que, évidemment, les idiots vont faire exprès de mal comprendre ce que je vais expliquer. Il y avait des gardes un peu partout. C'est Beit Hamikdash, on ne laisse pas effrayer, on ne va pas dormir, on laisse comme ça n'importe qui peut rentrer, des chats, des chiens, etc. Et donc, il y avait des gardes dans les endroits où on pouvait rentrer. Le matin, avant le lever du matin, il y avait un homme qui était préposé à faire le tour de tous les endroits où il y avait censé être des gardiens. Pour voir s'ils sont bien à leur poste. Qu'est-ce qui se passait s'ils trouvaient quelqu'un qui s'est endormi à son poste? Vous me promettez que vous le répétez à personne? Dans la tête presque. Il lui versait de l'essence sur ses habits, il allumait le feu. Bon, je vous rassure, il éteignait tout de suite après. Mais il attendait qu'il soit brûlé un petit peu. Quoi, tu dors à ton poste? Dans le temple, mes amis. Ça fait un petit peu d'arrache, hein. Bon, la différence avec Daesh, c'est qu'on ne le laissait pas brûler. On éteignait tout de suite. Il avait une couverture, il le mettait dessus. Mais il attendait qu'il crie, et la Mishnah dit, et son cri était entendu dans tout Jérusalem. Et tout le monde disait, ah, ça c'est quelqu'un qui s'est endormi à son poste. Non, chez nous, ça n'existe pas, on s'endort à son poste. On t'a confié une mission. D'accord? Ça n'existe pas. S'il y a bien un domaine dans lequel la Torah est, mais presque même d'une cruauté sans égale, c'est, je t'ai fait confiance. Tu faillis à ton rôle, il n'y a pas de... La responsabilité, c'est pourquoi la déclaration des devoirs de l'homme. C'est toute la différence avec le monde occidental. La déclaration des devoirs de l'homme. Ah, mais j'ai pas fait exprès, j'étais fatigué, je me suis endormi. D'accord. Tu t'es endormi. Le problème, c'est que t'as ta chance, t'es endormi dans le Beit Hamikdash. Mais si ça avait été un poste dans un terrain militaire avec les ennemis en face, ton endormissement, c'était peut-être... L'égorgement de 10 000 soldats.
Ramène-moi, connais la chanson « Il est loyano, velo, ishan, chomer Israël ».
Mais lui, il s'endort jamais, justement.
Mais justement, il y avait tellement de malheur avec ces gardiens comme ça.
Tout est une question relative.
Toujours c'est relative.
Je vais expliquer pourquoi. Je vais donner un exemple. Je réponds à Natal. Je réponds à Natal, mais d'une réponse aussi simpliste que la question. Mais la réponse est juste. Je vais donner un exemple, Natal. Mais réenchérit pas, parce que sinon c'est Ensof. Mais je vais donner une réponse. D'accord? Imaginez-vous quelqu'un qui est en vélo. D'accord? Et puis il est en vélo, puis bon, il ne regarde pas. Et puis tout d'un coup, il y a un camion qui vient. Et puis lui, il ne s'est pas rendu compte qu'il est en train d'être en face du camion. Quelqu'un qui voit ça, il crie, il dit « Attention !» Et l'autre, il panique, il tourne le guidon, il tombe et il se casse les deux jambes. Mais il a évité la mort. Alors, celui qui a dit « Attention !» il était en train de dormir ou il était très vigilant? Le problème, c'est que si lui, le cycliste, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé, il va se lever, il va aller chez le crieur, et il va dire, espèce de... Mais t'as pas honte de crier comme ça? Regarde, maintenant, j'ai mes deux jambes. Mais je t'ai évité pire que ça. Je ne peux pas en dire plus, mais tout le monde a compris. Nous, on n'a qu'une partie du film. Mais d'un autre côté, on est toujours là. Où sont les Romains? Où sont les Grecs? Où est Alexandre le Grand? Mais nous, Moshe Rabbeinu, il est toujours là. Mais Alexandre le Grand, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, il n'a rien laissé dans le monde. Et César, il n'a rien laissé dans le monde. Etc. Et les Juifs, ils sont toujours là. Donc, je sais qu'on peut réenchérir ad ensof. Mais je continue, moi, à dire « Iné lo yanun ve lo ishan ». Parce que le problème, je suis sûr que Hachem voit des camions que nous, on ne voit pas. Oui.
Alors, si la Rémi-Klot, c'est une mitzvah qui est tellement importante pour à l'idéologie du peuple juif,
oui.
Comment ça se fait qu'on ne l'a jamais accompli jusqu'au bout, dans le sens où il manque toujours trois villes à construire?
Non, c'est trois qui seront donnés les mots à Mashiach. Tout ce qu'on devait construire jusqu'à Biata Mashiach a été construit. Il y en a trois qui sont rajoutés Biata Mashiach. C'est marqué mes fois Jean Rachid. Avec une question énorme, quoi? Après la vie du Mashiach, il y aura toujours des accidents mortels. Voilà, ça c'est une question qui est très très connue. Mais c'est marqué mes fourrages qui arrivent, lecha, Hachem, et gvulecha, etc. Quand Hachem agrandira tes frontières, et on pose la question, Rachid pose la question, et ça veut dire quoi? Où on n'a pas? Alors ça fait allusion, dit Rachid, aux trois villes qui ne seront, aux trois pays qui ne seront donnés que l'imot à Mashiach, et là on fera dans chacun des pays une ville de refuge, etc. Mais pour l'instant, tout ce qu'on devait avoir, on l'a eu. Ok, il y a encore des questions? Alors maintenant, juste un instant mes amis, un instant. Maintenant on va revenir au Tosfot en question. Alors, je vous dis qu'il n'est pas tout à fait terminé, et on terminera là-dessus. Rappelez-vous le Tosfot qu'on a vu la semaine dernière. Un bref résumé. Pourquoi, et vous allez voir quel est le lien maintenant avec ce texte-là. Pourquoi le Rav... Enfin, je parle d'un vrai Talmid Chacham. Pourquoi le vrai Talmid Chacham a le droit d'être Mochel al Kvodo, alors que Tosfot avait prouvé la semaine dernière que le Kavod qu'on doit à un maître de la Torah est plus grand que le Kavod qu'on doit à un dirigeant. D'accord? Il n'y a pas un juif dans ce pays, sauf un tordu exprès, que s'il a en face, s'il a en même temps Bibi, et avec tout le respect qu'on lui doit, et Bibi qui vient... Et peu importe, allez, on va dire un qui est incontestable, Baba Salé qui vient en même temps, et on doit serrer la main à quelqu'un, quel est l'Israélien qui va serrer la main à Bibi avant Baba Salé? C'est sûr que c'est impossible. Un Israélien normal, même s'il n'est pas religieux, parce que c'est dans les tribus du juif, c'est comme ça. Donc, c'est évident que le représentant de la Torah et le kavod qu'on lui doit est plus grand que le représentant politique d'Israël, le Meller, le Molir. Très bien. Ok. Donc toi, ça t'avais une question. Si c'est comme ça, puisque le kavod du roi est plus petit, comment se fait-il que lui n'a pas le droit de s'en débarrasser et le grand, lui, a le droit de s'en débarrasser et le Baba Salé a le droit de dire à quelqu'un, tu peux t'asseoir à ma place, j'ai pas de problème. Le roi n'a pas le droit. Alors toi, soit t'avais répondu, pourquoi? C'est comme ça qu'on avait expliqué. Parce qu'il y a une différence entre un respect dû à la fonction et un respect dû à l'essence, pour reprendre les mots de Moshe. Le Talmid Chacham, on ne le respecte pas parce qu'il a la fonction de rabbin. Parce que justement, un rabbin, on ne le respecte pas. C'est un fonctionnaire. Mais le Talmid Chacham, lui, c'est son essence. Pourquoi? Parce que la Torah l'a réellement transformé à l'intérieur. Ce n'est pas le même qu'un autre. Parce qu'après 30, 40 ou 50 ans d'études et de vie au service d'Hachem, son être est fondamentalement différent d'un autre. Et c'est ce qu'on ressent. Tandis que le dirigeant, d'accord, aujourd'hui les dirigeants, demain ça sera un citoyen comme un autre. Au bout de 4 ans, il est éjecté, même au bout de 8 ans, peu importe. Après ça redevient monsieur tout le monde. Tu le rencontres dans la rue, tu sais même pas sûr si tu vas te lever pour lui laisser ta place d'autobus. Pourquoi? Parce que maintenant c'est monsieur tout le monde. Même s'il y a toujours une protection, vu les dangers, etc. Mais... Sa fonction est finie. Donc, qu'est-ce que disait Tosfot? Moi, le Talmid Chacham, si je dis à quelqu'un, assieds-toi sur ma chaise, ça ne va pas remettre en cause ce que je suis, parce que ce que je suis ne dépend pas uniquement de savoir si on s'assoit sur ma chaise ou non. Ce n'est pas fonctionnel, c'est essentiel. Mais le roi, lui, dans la mesure où c'est que fonctionnel, s'il ne joue pas le jeu de sa fonction, c'est-à-dire s'il ne se prend pas au sérieux, pour le dire en français... Alors ça repose sur quoi le respect? Si tu peux t'asseoir sur sa chaise et l'interrompre en plein milieu d'une phrase. Alors où est son kavod? Donc c'est pour ça que lui ne peut pas se permettre, justement parce que son kavod est fragile. Maintenant je pose une question. Comment?
Benenouken.
Quoi, Benenouken?
Ça veut dire, si je suis avec le roi,
oui,
en privé,
oui,
et je dis un mot déplacé, il peut se pardonner son kavod.
Non.
Si c'est en public, il ne peut pas se pardonner.
C'est une marloquette. J'ai bien compris la question, c'est une marloquette. Sachez que c'est une marloquette.
Parce que le maître du monde,
oui,
il se pardonne entre lui et moi.
C'est une marloquette et le makor, il est entre, justement entre Ouria et David. Quand Ouria a manqué de kavod à David, il lui a dit « Mon maître Yoav se porte bien », apparemment il était seul. Apparemment. Alors pourquoi on dit qu'il était morel de Malchut?
Parce qu'il était en public.
Alors il y en a qui disent qu'il était en public, mais c'est une marloquette, c'est pas évident. C'est une discussion, savoir si... C'est... Apparemment, en tout cas en public, oui. Maintenant je pose la question, mes amis. Écoutez-moi bien. Le Kohen Gadol, le kavod qu'on lui doit, parce que c'est évident qu'on lui doit du kavod au Kohen Gadol, d'accord, est-ce que c'est fonctionnel ou essentiel?
Gam et gam.
Alors, dites-moi. Comment? Je veux une preuve de ce qu'on a étudié aujourd'hui de l'un ou de l'autre.
Par exemple, avec David Amelech et... Comment ça s'appelle ce...
Eviatar.
Non,
pas Eviatar. Sadok.
Il a traité comme un goy, comme un...
Shimi Ben Gera, c'était le chef du Sanhédrin.
C'est fonctionnel, le
goy, il a traité en tant que goy.
D'accord, mais c'est un roi, on a vu que c'est que fonctionnel. Et, mais justement, mais je vous réserve après une surprise.
C'est fonctionnel peut-être,
oui,
parce qu'il ne perd pas sa fonction quand il est dans la ville de refuge. Il garde sa fonction de Kohen Gadol.
Ah non.
Non,
on peut le destituer, mais c'est pas automatique. Je veux dire, on peut le garder si on veut, mais comment qu'il va servir au temple? Un Kohen Gadol, par définition, va être au temple. Donc fonctionnellement, c'est fonctionnellement pas fonctionnel, puisque par définition, il doit servir au temple. Le Kohen Gadol, il n'a pas à sortir du temple, 24 heures sur 24 pratiquement. Donc, mais à votre avis, on a une preuve du Talmud, si être Kohen Gadol, c'est comme un roi, c'est fonctionnel, donc il ne pourrait pas être mochel sur son kavod, par exemple, il ne pourrait pas être mochel sur son kavod, ou bien c'est comme un Talmud Chacham, c'est essentiel. Apparemment, on aurait tendance à dire que c'est essentiel, pourquoi? Parce qu'on ne devient pas comme Kohen Gadol, comme ça, je veux dire, Kohen Gadol, c'est quand même, non? Ou alors c'est fonctionnel? Mais où on a vu que c'est évident que c'est fonctionnel? Mais on vient de le lire. On l'a lu et on l'a compris. Je veux les deux preuves. C'est marqué qu'il est... Il est comme un idiote. C'est marqué Royal Bechalava. Donc on l'a lu clairement que c'est que fonctionnel. Maintenant, où on a compris que c'est fonctionnel aussi? Où on a compris? Et parce qu'on a dit que quoi? Que s'il faillit à sa mission, on ne le loupe pas. Maintenant, écoutez-moi bien maintenant. Qu'est-ce qui se passe si un Talmid Chacham faute, est-ce qu'on le destitue de son... Il a fauté, il a fait une faute. Je ne sais pas qu'il a tué quelqu'un, mais il a fauté. Et est-ce qu'on a le droit de s'éloigner de lui et de le destituer, etc.
Non,
non.
C'est marqué.
Bravo. Imraïta Talmid Chacham chez Avar Avera Balaïla. Al te'arer aharav bayom ki vadai hasat shuva. Attention, j'ai pas dit un rabbin, j'ai dit un talmid chacham. J'ai pas dit moi non plus. J'ai dit un talmid chacham. Talmid chacham, c'est pas tout celui qu'on dit aujourd'hui talmid chacham. Allez, on prend un indiscutable là-bas, ça l'est. De imaginer que, je sais pas moi, vous me direz c'est impossible qu'il faute d'un autre côté. Mais bon, quelqu'un qui a vraiment le statut d'un maître, il a eu une faiblesse, il a fauté. Est-ce que j'ai le droit de me détourner de lui? Non. Pourquoi? Parce que la Gemara dit Vadaï Asat Shuvah. C'est évident qu'il a fait Teshuvah.
Gamim lo yasat Shuvah.
Non, Vadaï, c'est un psak.
Ouais.
Vadaï Asat Shuvah. Vadaï. Au contraire, la Gemara, elle voudrait dire Shma Asat Shuvah. Et la Gemara dit Mapitam Shma, Vadaï Asat Shuvah. Sinon, ce n'est pas un Talmid Chacham. Ça veut dire que le Talmid Chacham, lui, ce qu'il est, encore une fois, c'est toujours un problème. C'est essentiel. Ça veut dire que, même si tu es quelqu'un de grand dans ton essence, tu peux avoir une faiblesse. Quoi. David n'a pas eu une faiblesse. On va revenir après avec Faye. Il n'a pas eu une faiblesse avec Bathsheba. Il a eu une faiblesse. D'accord? Mes amis, la Gemara nous rapporte certains personnages parmi les plus grands, mais ça, c'est dommage que j'enregistre. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, pour ne citer que, qu'un jour, ils ont eu une tentation, ils ont failli tomber. Si ce n'était Hachem qu'ils avaient retenu au dernier moment, Hachem lui-même, comment, peu importe, il serait tombé.
Le rabbin de Vence qui a écrit une Sané Tokef.
Oui.
Où il a réfléchi à l'histoire de Condé-Corail.
Oui. Faisons une histoire que seuls les Ashkenazim connaissent. Que un passage qu'on lit dans le Noussar de la Tfila Ashkenaz à Yom Kippour. Le grand Rav de Worms, qui était à Rishon, qui était à l'époque des Tosfot, etc. Et que on l'a fait prisonnier, et qu'on l'a menacé de détruire toute la communauté, et en échange que s'il se convertissait, alors on épargnerait la communauté. Il a eu un moment d'hésitation, et pour ce moment d'hésitation, d'accord ? Après, il a demandé à Hachem de le punir terriblement pour ce moment d'hésitation, et finalement, il est mort de grâce. Laissez-moi juste terminer. Et donc, le Talmid Chacham, lui, c'est par définition quelqu'un qui est. Son kavod, il est essentiel. Donc, il peut tomber. Bah, s'il n'a pas la chance qu'Hachem le protège. La Gemara dit clairement qu'un jour, Rabbi Meir se promenait sur une rive du truc, d'accord ? Et ça faisait. Je lis dans le contexte de la métaphore talmudique. Mais l'histoire s'est passée, mais. La métaphore talmudique. Le Satan en avait marre qu'à chaque fois que Rabbi Meir ouvrait la bouche, Hachem était comme ça devant lui. Ah, j'en peux plus, Rabbi Meir. Satan lui dit, mais qu'est-ce que t'as dans Rabbi Meir? Laisse-moi y aller, tu vas voir, je vais le faire tomber, ton Rabbi Meir. D'accord. Et Hachem, tu n'y arriveras pas. Laisse-moi 30 secondes, ils font ton Rabbi Meir. Très bien. Elle dit, vas-y. Je vais raconter 3 histoires. Il est descendu dans la plus belle femme du monde. C'est pas de moi, c'est du Talmud. D'accord. Ça veut dire que même en pleine nuit, elle brillait comme un soleil. Rabbi Meir passait sur la rive, il l'a vu. Oh, Rabbi Meir, le bonhomme, 50 ans, un Talmid Chacham, il n'est pas très sportif, d'accord. Il s'est préparé pour courir sur l'autre rive. Il était en train de sauter, hop, il y a une main du ciel qui l'a retenu. J'exagère, mais presque. Ça veut dire, il s'est passé quelque chose que Hachem n'a pas voulu qu'il faute. D'accord. Si ce n'était l'intervention d'Hachem, il aurait fauté. Bon, les commentaires disent, c'est justement ça sa grandeur, c'est qu'il a mérité l'intervention d'Hachem. Rabbi Akiva, pareil. On a une autre histoire avec, je ne sais plus comment il s'appelait lui, il a un nom, que aussi le Satan a voulu le faire tomber, parce que je n'arrête pas de lire, heureusement que j'ai lu dans mon monde. Alors oui, c'est beaucoup plus terrible l'histoire. C'est qu'il était en train d'étudier, et la belle Satan, elle est rentrée dans le Beit HaMidrash. Il a senti une odeur de parfum, il n'en pouvait plus. Alors, il a senti qu'il était en danger, il a fait comme ça. D'accord. Elle est venue, elle s'est approchée près de lui, elle lui a pris par la tête, elle lui a levé comme ça. Et elle l'a obligé à tourner, à le regarder. Il savait que s'il regarde, il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un couteau dans la poche, il a sorti son couteau, il s'est crevé les yeux. Ils sont fous, les Juifs. Ça veut dire qu'il s'est crevé les yeux, c'est-à-dire que s'il n'avait pas fait ça, il était mort. Pourtant, Hachem n'arrêtait pas de dire, heureusement que j'ai lui dans le monde. Ça veut dire que la Gemara nous raconte que même quelqu'un qui est essentiellement ce qu'il est, et pas un fonctionnaire de la religion, malgré tout, heureusement qu'Hachem est là. Je ne sais pas terminer. Ce qui veut dire qu'un Talmid Chacham, s'il faute, on ne va pas lui dire, bon, bah, t'as failli à ta mission, tu ne nous intéresses plus, pourquoi? Parce que justement, comme ce qu'il est, c'est dans son essence, et que le judaïsme n'a jamais considéré comme incompatible le fait qu'on puisse être un Baba Salé et fauter aussi, la preuve David Ameller avec Bathsheba, nous on ne se la joue pas, se raconter des histoires sur l'homme-dieu. Donc on considère qu'un homme reste un homme, il peut avoir ses faiblesses, malheureusement. Donc si tu es tombé, ça ne remet pas en cause ton essence. Mais pourquoi? Parce que mon statut de Talmid Chacham n'est pas ma fonction, c'est mon essence. Mais le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'on a dit? S'il faillit et qu'il a fait un accident, on le loupe pas qu'il reste en exil et qu'il y crève. Pourquoi? Comment tu as osé faillir à ta mission? C'est donc bien la preuve, écoutez-moi, j'ai pas fini, laissez-moi, parce que l'essentiel du message n'est pas dit. C'est bien la preuve que même le Kohen Gadol, pas seulement au niveau de la terminologie, idiot, c'est un simple citoyen, même sa relation avec Hachem est fonctionnelle, ce qui veut dire qu'il n'est pas plus proche d'Hachem que moi. Ça veut dire qu'en vérité, moi je peux être un simple Israël, quelque part à Beersheba ou Ashkelon ou je ne sais où, je n'ai pas la possibilité de monter au temple plus que 3 fois par an quand le temple me demande, mais là où je suis dans ma petite synagogue, je suis peut-être plus connecté à Hachem que le Kohen Gadol dans le temple. Ça c'est ce que la Torah a le courage de nous dire. La Torah, elle croit, je nous montrer qu'en vérité, que la relation essentielle avec Hachem, elle n'est pas liée au fait que tes Kohen Gadol étaient dans le temple où tu rentres une fois par Kippour que chez Kodashim. Et pourquoi c'est essentiel pour nous? Parce que toutes les religions se sont plantées. L'homme de Dieu, elles se sont toutes plantées. Et c'est pour ça qu'elles sont arrivées même à diviniser l'homme. Nous, dès le départ, on s'est un fonctionnaire de Dieu. Mais moi, je suis un petit paysan, je vis dans le sud d'Israël. Quand je vais dans mon petit minyan, peut-être que je me connecte plus à Dieu que toi. Alors pourquoi il y a un Kohen Gadol? Parce que dans chaque peuple, il y a des institutions, il y a des fonctions et des fonctionnaires. Mais que ça ne te monte pas à la tête. Prenez.
Mais oui. Rabbi Meir, des fois vous dites qu'il y a un machloket, si Avouya a sa tchouva ou la sa tchouva, quelle importance? Vous voyez Kohen Gadol, Avouya quand il a fauté?
Qui?
Avouya, ben Avouya, Acher.
Non, il n'était pas Kohen Gadol, lui, il était
Israël. Il était dans sa Sanhedrin, comment non? Il était Gadolador,
oui.
Oui, alors, oui. Il était considéré comme Talmid Chacham.
Oui.
Alors, quand ils ont dit à Rabbi Meir, Lama Talom Edito, il a dit, Ani Lokach Menorak et Advarim Atorim.
Ok, mais quelle est la question?
Alors,
pourquoi on l'a destitué?
Alors, pourquoi il n'a pas fait Tchouba? Pourquoi il y a Machlok et Tzil? Il a fait Tchouba ou pas Tchouba?
Mais c'est la raison est très très simple. C'est justement, c'est pour ça que la Gemara se pose la question sur ce cas unique. Comment se fait-il qu'il est tombé? Ou comment c'est qu'il a pas fait Teshuva? Et la Gemara se casse la tête jusqu'à ce qu'elle remonte à deux faits. Parce que dès le départ, il n'est pas rentré dans la Torah Leshem Shamaim. C'était que pour le Kavod, l'histoire avec son père, etc. Ou parce qu'il a eu un trauma, il a eu un Mashber inimaginable. Cette histoire de cet enfant, etc., qui est tombé de l'échelle. Il a eu un Mashber qui s'en est pas remis. Ce qui veut dire que si, ce sont deux thèses dans le Talmud, effectivement. Non, ça veut dire que dès le départ, il y a eu un problème. Soit parce que dès le départ, il a toute sa vie étudié la Torah, les Shem Kavod. Ça, c'est une thèse. Ou soit parce qu'il a eu un très, très grand Mashber. Et donc, Keilu, c'est Yatsami de Shlitato. Comme est-ce que quelqu'un qui sort d'Auschwitz et qui est rentré, il était un Rosh Yeshiva, et qui sort et la première chose qu'il fait, c'est manger un jambon beurre volontairement, on va lui faire un reproche? Non, c'est pourquoi? Parce qu'il a un Mashber qui fait que ce n'est pas une décision en pleine connaissance de cause. Mais ce qui est intéressant de voir que la Gemara se refuse de dire qu'il a choisi d'être rebelle. Non, tout d'un coup ça lui est monté à la tête. Non, il y a eu quelque chose qui fait que, ou dès le départ, il n'était pas un vrai Talmid Chacham, ou il est un Talmid Chacham, mais il a eu un trauma qui a fait que, bon, il aurait dû aller voir un psychologue, il ne l'a pas fait, et ça lui a explosé à la tête.
Et s'il n'a pas fait le limo de Shem Shamaim, ça empêche d'être
un Talmid Chacham? Oui, parce que 100%, parce que seulement la Torah Mishma, seulement, non, un vrai Gadolador, c'est seulement situé. Non, attention, tu peux être un Gadolador, le plus grand Gadolador joué, c'est Google. Il n'y a pas plus grand Gadolador que lui. Rabbi Google, il sait tout. Il sait plus que n'importe qui. C'est un Gadolador. C'est même pas un humain, c'est une machine. Donc, la connaissance ne fait pas de moi un Gadolador. La connaissance, c'est uniquement, on pourrait dire, un habit, un instrument. La définition du Talmid Chacham, c'est pnimi, c'est dans l'essence, c'est dans les midot, c'est dans le comportement. C'est là que tu vois... Tu vois où est le Talmid Chacham, mais
donc
pas dans les connaissances.
Donc ça ne remet pas en cause son enseignement. Et l'enseignement d'un rabbin.
Comment
maintenant, parlons maintenant pour nous qui vivons ici.
Oui.
Des rabbinés, mais on apprend des années avec eux. Et tout d'un coup, le Alénou, il y a une takala.
Oui.
Ça ne remet pas en cause tout ce qu'ils ont.
C'est le grand. On ne va pas en faire des détails, surtout que personne ne commence la prudence dans les détails, parce que ça serait vraiment un crime. Mais c'est le problème qui s'est posé ces dernières années avec Pierre et Paul, etc. C'est une grande, 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 grande Sheila. Une très grande Sheila. Certains disent que pour qu'un Talmid Chacham, et c'est ça le sort de Vadei Asa Tshuva, et encore une fois, je ne me prononce pas, même si Beremez, on pourrait comprendre de ce que je dis quelque chose. Certains disent que le din de Talmid Chacham, qui ne doit pas changer à mes yeux, même après une faute grave, c'est s'il reconnaît et demande pardon. Vadei Asa Tshuva. Mais si le Talmid Chacham s'entête à dire « moi j'ai rien fait », dans ce cas-là, il ne rentre pas dans un guédère de Vadei Asa Tshuva, et donc je n'ai pas l'obligation de considérer comme un Talmid Chacham. Alors tout le problème est de savoir celui qui dit « j'ai pas fait », est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Si c'est vrai qu'il a fait, qu'il dit « j'ai pas fait », donc il n'est pas dans le cadre de ce que dit la Gemara. Croyez-moi que pour les histoires récentes, tous les rabbins d'Israël ont discuté justement par rapport à un tel ou un tel. Qu'est-ce qu'on continue à faire? Il continue à enseigner, on y va ou pas? Alors cette machloket, elle a été exprimée comme je le fais pour vous. Certains ont dit, quand c'est qu'on dit qu'à nos yeux il n'a pas bougé, quand va derrière ça, tu vas ou l'eau, c'est tu vas ou on marche ou l'eau à ça, mais on brime chez quel à ça. Après, on brime avec quel? Quand c'est qu'on dit qu'il n'a pas fait teshuva, si on est sûr qu'il a fait, mais là, c'est pas parce que le bagatz dit qu'il a fait qu'il a vraiment fait, parce que pour nous, le bagatz n'a pas force de loi, puisqu'il ne juge pas selon les critères de la Torah. Et donc, c'est une discussion à Densov, et Bekitsour, à Elou Velou, il y en a qui continuent à aller au shiurim, il y en a qui continuent à aller au shiurim, Kolechad Mevin Al Mibdouba.
La question de l'importance du lien entre la fonction et l'essence.
Oui, mais le problème, c'est que justement, il y a des hommes chez qui il y a une séparation entre l'essence et le...
C'est le problème, c'est celui-là qui est caché.
C'est pour ça qu'on peut être Kohen Gadol, pas forcément si on est le Tzadik Hador. Et on peut être le Tzadik Hador et on n'a pas le droit d'être Kohen Gadol. C'est l'histoire du roi Ouzia, d'accord, qui était un Tzadik Hatsum, un très très grand Tzadik. À son époque, le Kohen Gadol, c'était un moins que rien, un pauvre type. Il a dit, mais c'est pas possible que ce bonhomme-là, il nous représente devant Dieu. Il l'a pris, il l'a jeté. Il est lui rentré dans le temple. Paf, il a pris la tsaraat. Pourquoi? Parce que Hachem lui répond. Mais c'est toi qui fais un problème. J'ai jamais dit que celui qui est dans ma maison, c'est le meilleur des juifs. C'est un fonctionnaire. Mais il faut le courage du judaïsme pour des choses pareilles. Quoi? Le Saint-Père n'est qu'un fonctionnaire? Mais où il y a une religion pareille? C'est la religion des juifs, la meilleure du monde.
Oui, mais il y a aussi une chose par rapport à la fonction, pourquoi lui c'est plus important que les autres? Parce qu'il représente aussi une malchoute.
Qui? Le Kohen Gadol?
Le Kohen Gadol, on dit Keter Keuna, Keter Malchoute. Donc en fait, il a le même statut que, entre guillemets, qu'un roi.
Oui, mais on dit aussi Keter Torah. Alors c'est dangereux. Si tu vas au nom de Keter, on dit aussi Keter Torah. Il y a trois Ketarim, Keter Keuna, Keter Malchoute et Keter Torah. Donc. Donc, Bekitsour, on a appris des choses très, très, très importantes aujourd'hui. Et donc, le résumé de tout ça, mes amis, deux choses importantes. L'habit ne fait pas le rabbin. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment vrai. Le problème, c'est que c'est les Français qui l'ont inventé, mais ils sont incapables de le vivre, puisque l'esprit occidental est tout de suite impressionné par la fonction, alors que le proverbe est 100% vrai. Chez nous, on le vit, on le dit. Tu es Kohen Gadol, tu es grand prêtre, mais tu es pour nous un citoyen comme un autre. Et aussi le vrai, vrai grand message d'aujourd'hui, mais qui est une répétition de ce qu'on a déjà répété mille fois, que dans la hiérarchie morale d'Israël, l'irresponsabilité est la pire de toutes les fautes qui existent.
Navi, c'est quoi? C'est un fonction aussi?
Non. Navi, non. Navi, d'Afka, c'est Be'etzem. Ça, c'est par définition. Mais tu ne peux pas être, et c'est ça les faux Nevi'im, c'est que justement, ils n'avaient pas le mérite d'être des prophètes, et donc ils ont dérapé. Ils avaient plus ou moins des facultés. En vérité, je voulais dire quelque chose d'autre, mais on y arrivera en son temps, parce qu'on va y arriver à ce texte-là. En vérité, et pour toucher un petit peu ce que tu dis, il y a un fonctionnaire qui est un fonctionnaire d'essence aussi, c'est les rois de David. C'est en même temps l'essence et en même temps la fonction. Eux, et c'est pour ça que ce sont de vrais rois, c'est parce qu'ils font le chibour, l'union. Parce qu'en vérité, le monde est en vérité divisé entre deux types d'hommes. Les hommes essentiels et les fonctionnaires. Et le monde est surtout dominé par des fonctionnaires aujourd'hui, pas par des hommes. Parce que les essentiels, dès qu'ils ouvrent la bouche, on leur tire une balle dans la tête. Il y a un endroit où Hachem veut faire le chibour entre la fonction et l'essence, c'est David et Mashiach. Entre David c'était à 100%, Mashiach à 100%. Entre David et Mashiach, on a eu le roi Hizkiyahou qui était pas mal non plus, on en a eu encore un ou deux, mais c'est pas du trouvable. Chez les rois d'Israël, pas un a été un roi d'essence, tous des fonctionnaires. Chez les Kohanim Gdolim, on a eu quelques Kohanim Gdolim qui étaient aussi des Kohanim d'essence, le fameux, oh, comment s'appelle-t-il, qui est en même temps un Tana, Rabbi Ishmael Ben Elisha, qui lui était un Tana. On en a eu un bien, bien avant, comment il s'appelait, mince, oh, un des premiers Kohen Gadol du deuxième temple. Bon, ça m'est sorti. Non, il est dans Pirkei Avot, tout de suite, première mission de Pirkei Avot. Bon, peu importe. Il y en a eu quelques-uns, mais le Talmud ose dire que, et ça fait mal, que pratiquement tous les Kohanim de l'époque du deuxième temple étaient tous des pauvres types.
Il y en a eu un voilà. Qui est resté 40 ans.
Oui, que c'est lui.
C'est
Rabbi Tzadok,
non?
Non, pas Tzadok, mince, comment
il s'appelait. Rav, mon cher Rabbeinu, il était quoi, Navi, Rav? C'était quoi?
Il était tout au niveau de l'essence.
De son essence?
Au niveau de l'essence.
Ah, pourquoi lui dire mon cher Rabbeinu, pas mon cher Rabbeinu?
Comment? Parce qu'on l'appelle du nom de sa principale fonction.
Mais Rav, on parlait de Keter Torah et Keter Malchus.